Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ah, c'est un séminaire qui va prendre du temps, hein, ça, mais c'est de l'investissement. Amen. Ça prend du temps, vous savez. La parole de Dieu, il ne faut pas l'écouter une fois et dire ça y est, ah, j'ai compris. Non. On revient. On est trempé dans une atmosphère. Vous voyez, la parole de Dieu, comme la présence de Dieu d'ailleurs, c'est quelque chose dans lequel nous devons être trempés. Si tu veux prendre la température du milieu autour de toi, il faut que tu restes suffisamment influencé par ce milieu. Tu comprends quelque chose? C'est important. Il y a des temps où nous devons nous mettre à part. Si par exemple, tu viens écouter la parole de Dieu et que tu es en train de penser, je ne sais pas moi, à ton boulot, à tout un tas de trucs que tu as, etc., etc., finalement tu ne vas pas saisir la parole. Il faut que tu sois trempé suffisamment longtemps pour qu'elle t'influence, pour que tu prennes la température de Dieu, entre guillemets, que tu sois tellement influencé par le milieu, l'atmosphère divine, que là ta vie va commencer à être changée. Le problème, c'est que souvent, les chrétiens viennent, ils saisissent un petit truc, ils disent « ça y est, j'ai compris », et ils vont dans le monde, et le monde les rattrape avec la mentalité du monde, vous voyez. Et c'est pour ça que c'est très important de passer du temps dans la parole. Et les notes que vous prenez, passez du temps avec. Vous regardez, vous vous asseyez, vous passez du temps et vous devenez des gens de la parole de Dieu. C'est très important. C'est une fondation indispensable. Si vous voulez vraiment marcher et aller loin avec Dieu, il faut que la parole de Dieu soit votre repère à tous les coins de rue, entre guillemets, à toutes les situations, à toutes les décisions que vous allez prendre. Il faut qu'il y ait la parole. Le standard de la parole, l'influence de la parole. Et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous faire quelque chose qui allait durer 2 heures ou 3 heures, parce que pour moi, un séminaire, ça ne doit pas durer 2 heures ou 3 heures. Et je remercie les pasteurs qui ont organisé cela, parce qu'on fait ça sur 5 matinées, 3 heures, ça fait 15 heures. Au moins, on a le temps de tremper dans ce sujet qu'est le leadership. Alors, nous avons vu qu'il y a un leadership divin, c'est-à-dire qu'il y a un leadership des mentalités de Dieu. Et c'est ce que nous devons apprendre. Je vous rappelle qu'ici, sur le continent, en Afrique, le plus gros problème que nous avons n'est pas un problème de ressources naturelles, n'est pas un problème de climat, n'est pas un problème de tout ce que vous voulez trouver comme excuse. Le problème numéro un, et même aussi dans les églises en général, c'est le problème de leadership. L'église devrait amener une transformation des sociétés par l'influence du royaume de Dieu. Plus les églises sont influencées par le royaume de Dieu, plus les chrétiens qui sont disséminés, c'est-à-dire qui sont un peu partout, vont influencer par les lois du royaume de Dieu, et plus Dieu va se manifester partout où nous sommes, et plus la nation va changer. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple, mais il faut le comprendre, plutôt que d'essayer d'aller dans d'autres directions et se plaindre parce que rien ne change. Si rien ne change, nous en sommes responsables. Amen. Ça, il faut être clair. Nous avons besoin de leaders dans tous les domaines, des leaders chrétiens, des gens de conviction qui vont se lever. Nous avons besoin de très, très grands businessmen qui sont capables de dire non alors qu'il y a toutes les tentations pour qu'ils fassent de la corruption, qu'ils fassent des choses mauvaises dans leur pays. Nous avons besoin de gens qui s'engagent aussi dans les domaines politiques, qui vont prendre des décisions et qui ne seront pas à vendre. Je n'arrive pas à comprendre comment un leader peut se vendre contre de l'argent. Je n'arrive pas à comprendre ça. Pour moi, c'est un travers gigantesque de leadership. Nous avons besoin de bons pasteurs qui créent des églises stables, fortes, indéracinables, qui sont fondées sur la parole, qui amènent la présence de Dieu d'une façon incroyable et qui est des choses qui transforment les gens par des mentalités divines qu'ils enseignent au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu tende vers l'excellence. Nous avons besoin de cela, frères et sœurs. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de gens qui exercent la justice sociale. Quand tu es responsable d'un département social, eh bien, si tu es quelqu'un qui est fondé sur les lois du leadership divine, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas apprendre à appliquer la justice. Et quand il y a des choses qu'on voudra te faire qui ne sont pas justes, tu diras non, ça je ne peux pas le faire parce que ça va faire du mal aux gens. Voyez ? Donc vous avez à ce moment-là de l'influence. Vous limitez le péché et d'un autre côté, vous permettez à l'atmosphère du royaume de Dieu de vous influencer et d'influencer les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous dis, il y a souvent des gens qui prient pour les pays différents où nous sommes. Seigneur bénis le pays, Seigneur bénis le président, Seigneur bénis machin, Seigneur bénis truc, Seigneur, 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 Seigneur. Et il n'y a rien qui se passe et il y a une dégradation. Je me souviens, au Burundi, les gens priaient, « Oh Seigneur, fais arrêter la guerre. » Alors je leur disais, « Mais est-ce que c'est Dieu qui a envoyé la guerre ?» Vous voyez ? Les gens ont des idées qui sont fausses sur les nations. Dieu veut que nous soyons transformés, et plus nous sommes transformés, plus nous transformerons le milieu dans lequel nous sommes. Et plus nous serons contagieux. Vous savez, un chrétien doit être contagieux. On parle des maladies contagieuses, mais je vais vous dire une chose. Il y a une bonne maladie contagieuse qui est l'influence du royaume de Dieu chez un chrétien. Parce que quand on te voit briller quelque part, les gens vont commencer à se poser des questions. Comment il fait, lui ? Pourquoi est-ce qu'il a réussi alors qu'il ne fait pas comme les autres ? Ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un trompeur, ce n'est pas quelqu'un qui écrase les autres, etc., etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose en lui. Et là, quand tu témoignes de Jésus, mais les gens te suivent. Et ils ne te suivent pas parce que tu as de l'argent, ils ne te suivent pas parce que tu vas peut-être les aider à faire telle ou telle chose. Ils te suivent et ils sont inspirés par toi. Pourquoi ? Parce qu'ils voient en toi un modèle divin. Et ils sont attirés par ça. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, il faut qu'on travaille durement aux transformations de nos mentalités. Recevoir Jésus est une très bonne chose, ça nous permet d'assurer le ciel. Mais en attendant, tu as une destinée sur cette terre. Et cette destinée sur cette terre, tu dois la réussir. Et pour la réussir, il va falloir que tu comprennes que la première chose sur laquelle il va falloir que tu travailles, qui est la plus difficile, que tu vas apprendre, c'est la transformation de tes mentalités. Et partout, il y a du leadership. Partout, nous exerçons un leadership d'une manière ou d'une autre. Que tu sois un grand frère dans une famille, que tu sois enseignant devant des étudiants ou des élèves, que tu sois directeur d'un département, que tu sois pasteur, où que tu sois, il y a du leadership. Que tu sois mari à la maison, que tu sois maman qui t'occupe des enfants à la maison, t'es un leader quelque part. Partout, il y a du leadership. Et c'est là où il va falloir transformer au travers de notre leadership. Amen. Alors, nous avons vu qu'il y a des lois du leadership. Et nous en avons déjà étudié un certain nombre. Nous avons vu la loi du couvercle. Nous avons vu qu'il y a des choses qui nous empêchent d'aller plus haut. Et on a vu qu'il y a trois types de couvercles. Il y a les couvercles externes, c'est-à-dire nos situations, nos circonstances, là où nous sommes nés, l'éducation que nous avons reçue, etc., etc. Toutes sortes de choses qui souvent ne sont pas forcément de notre faute. Mais c'est là où on a grandi. Voilà, tout simplement. Il y a des gens qui disent, oui, moi je ne suis pas de la tribu d'un tel ou d'un tel, et si j'étais là, au moins je pourrais avoir des richesses naturelles, au moins je pourrais... Non, ce n'est pas grave, il y a autre chose que le Seigneur a pour toi. Il y a autre chose que le Seigneur a pour toi. Oui, je n'ai pas été élevé dans une famille, je n'ai pas eu de père. Ok, tu n'as pas eu de père terrestre, mais tu as un père céleste. Ok ? Vous voyez, il y a toutes sortes de choses comme ça qui nous donnent des excuses pour nos échecs. Je veux dire une chose, ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu es foutu. Tu n'avanceras jamais dans la vie avec le Seigneur. Donc on a vu deux destinées. Deux personnes qui avaient la même destinée, et une qui avait un arrière-plan qui était catastrophique, c'était David, et finalement, lui, il a réussi. Et Saül, lui, il avait des couvercles internes, beaucoup de couvercles internes. David en avait, mais beaucoup moins. Donc, David avait beaucoup de couvercles externes, c'était quelqu'un qui était rejeté, etc. Et Saül avait beaucoup de couvercles internes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un qui a réussi et l'autre qui a échoué, parce que chacun devait enlever ses couvercles, et il y en a un qui l'a fait, l'autre qui ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que ça s'est terminé en catastrophe pour l'un et en réussite pour l'autre, même s'il n'a pas eu un parcours parfait. David n'a pas eu un parcours parfait, mais en tout cas, il a réussi sa destinée, c'est-à-dire de devenir un roi selon le cœur de Dieu. Et nous avons vu aussi qu'il y a des couvercles qu'on ne peut pas enlever nous-mêmes, que Dieu nous envoie des personnes qui nous aident à enlever ces choses-là, parce que là, ce n'est plus dans notre domaine. Ensuite, nous avons vu que le leadership, deuxième loi, c'est de l'influence. L'influence, Josué. On a vu Josué au début, quand il y a les 12 espions, qu'est-ce qui se passe ? D'un seul coup, paf ! Il a un peuple qui est rebelle à Dieu, et il a beau parler avec Caleb, on ne l'écoute pas. 40 ans plus tard, par contre, Josué était un homme qui avait une immense influence, et qui a amené le peuple dans sa destinée sans aucun problème, et il n'y en a pas un seul qui a bronché, nous l'avons vu. Donc l'influence, nous avons vu que c'est quelque chose qui ne vient pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va grandir dans notre leadership, mais ça prend du temps. Ensuite, nous avons vu la troisième loi, c'est la loi du processus. La loi du processus, c'est Joseph. Un leader ne se crée pas en deux jours. Moi, je rigole quand j'entends des instituts de leadership. Nous sommes des leaders maintenant parce que nous avons le diplôme de l'institut. Grosse blague. Par contre, tu as peut-être effectivement une certaine académie sur le leadership. C'est-à-dire qu'on t'a expliqué un certain nombre de choses à propos du leadership. D'ailleurs, je rigole un peu parce que de temps en temps, on en a eu une comme ça, un truc international, sponsorisé par les Américains à Bujumbura. Et je connais un des gars qui enseigne là-bas. Et croyez-moi, c'est vraiment pas un bon leader. Moins qu'on puisse dire. C'est plutôt quelqu'un qui a une mauvaise réputation, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis comme enseignant là-bas. Vous voyez donc, c'est bien d'avoir de l'éducation dans le leadership, mais ce n'est pas ça qui fera de toi un leader. Ce qui fera de toi un leader, c'est les souffrances par lesquelles tu vas passer, c'est les obstacles que tu vas rencontrer, ça va être comment tu vas grandir dans ton leadership et comment tu vas réagir à tout cela, pardon, tu vas répondre, excusez-moi, à tout cela, et que, comment tu vas grandir selon ce que le Seigneur a prévu et comment tu vas gérer tes erreurs. Nous avons vu Joseph, cet excellent exemple, qui était très mal parti, enfin, qui avait un très bon arrière-plan au départ, ensuite qui était très mal parti dans son adolescence, et qui après a complètement rectifié le tir parce qu'il a travaillé sur lui. Tant que vous ne voulez pas travailler sur vous-même, que vous cherchez des excuses chez les autres, vous n'arriverez à rien. Vous échouerez toujours. Cherche d'abord le problème qu'il y a en toi. Ce qui ne va pas en toi, change-le et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer tout autour de toi. Ce que tu es à l'extérieur, c'est le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Saisis cela et tu vas découvrir énormément de choses dans la vie avec le Seigneur. C'est très simple, mais c'est très puissant. Ensuite, nous avons vu la loi de la navigation, je vous rappelle, Néhémie qui, lui, savait très bien où il voulait aller, mais il savait beaucoup plus que ça. Et un bon leader doit être un navigateur. Trop de leaders vous annoncent, on va faire ceci, on va faire cela, mais ils sont à un niveau très bas et ils veulent amener le peuple très très haut. Mais entre-temps, il y a des étapes. Et quand tu ne sais pas franchir ces étapes, tu n'es pas un bon navigateur, tu n'iras pas loin. Parce que les gens, et tu vas avoir des défis qui sont tellement grands, ça sera trop grand pour ta foi, ça sera trop fort pour les gens, il n'y aura pas suffisamment de ressources financières encore, etc. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a des étapes avant d'arriver là où tu veux arriver, là où le Seigneur t'a montré que tu dois arriver. Il y a toujours des étapes dans la navigation. Il y a toujours des points de repère. Avant d'arriver à destination, tu dis, il faut d'abord que nous passions l'étape numéro 1, puis l'étape numéro 2, puis l'étape, etc., etc., etc. Et un bon leader doit être un excellent navigateur. Ça, c'est très important. Si vous ne savez pas naviguer correctement, vous ne saurez jamais vous en sortir en leadership. Et il y a beaucoup, beaucoup de leaders qui font cette gaffe-là. Ils disent, on va faire ça, on va prévoir ça, on va faire tant de chantiers, on va faire tant de choses, on va. Oui, d'accord, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Vous voyez, on est au niveau où il n'y a rien. Par exemple, on vous dit, on va faire toutes les routes de tout le pays. Bon, d'accord, c'est bien, mais pour l'instant, on a deux routes pourries dans tout le pays. Donc, on va commencer par quoi? Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est pas d'avoir une vision et dire aux gens, on va faire ça. Ça, c'est très bien. Ça peut venir même d'un bon cœur, ça peut venir vraiment de très très bonnes intentions. Ça peut venir de dire vraiment, on va changer les choses. Et il y a de très bons leaders, des leaders qui vraiment, souvent, ont de très bonnes intentions pour un avenir meilleur. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas tracer les étapes. Et quand tu ne sais pas tracer les étapes en leadership, tu vas avoir un problème. Tu vas te retrouver devant de trop grands défis, tu vas être découragé. Et tu vas après te mettre sur le côté de la route parce que tu seras épuisé, parce que tu n'auras pas su bien naviguer correctement. Néhémie, je vous le rappelle, était un super navigateur. Ensuite, on a vu la loi de E.F. Hutton, c'est-à-dire de celui, le leader qu'on écoute. Et on a vu Samuel. Samuel était un homme qu'on écoutait. C'était un prophète qu'on écoutait. Le peuple l'écoutait quand il appelait le peuple à la repentance. Le roi l'écoutait. Le chef de l'armée l'écoutait. Tout le monde écoutait Samuel. Mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Nous avons vu que c'est tout un processus pour devenir quelqu'un qu'on écoute. Et nous avons vu les différentes étapes par lesquelles, les différentes qualités par lesquelles nous devons passer. Ensuite, nous avions terminé par la sixième loi, qui était la loi de la solide fondation. C'est Samson. Nous avons vu que la crédibilité d'un leader est quelque chose d'extrêmement important. La crédibilité d'un leader. On a vu que la crédibilité, eh bien, c'est quelque chose qui, c'est comme un compte en banque, hein. Tout ce que nous réussissons dans le leadership, ça rajoute quelque chose en plus dans notre compte en banque de la crédibilité. Par contre, à chaque fois que nous faisons une erreur ou que si nous péchons en tant que leader, eh bien, ça va être un débit sur notre compte. Et il y a des leaders qui sont très débiteurs et on n'a plus confiance en eux. Parce que le leadership, la base du leadership, c'est la confiance. C'est basé sur une relation de confiance. Ce n'est pas basé sur un titre. Ce n'est pas basé sur un truc, moi je vais tout changer, suivez-moi. Ça ne marche pas comme ça. C'est sur la confiance. Les gens doivent apprendre à faire confiance au leader. Et ça prend du temps. Pour ça, le leader doit être crédible. Et nous avons vu Samson qui a une destinée qui l'a complètement gâchée. Cet homme était appelé de Dieu, il était oint par Dieu, il avait une mission divine, d'ordonnance divine, mais il a tout gâché. Pourquoi est-ce que Samson a tout gâché ? Parce qu'il avait des problèmes gigantesques qu'il n'a jamais voulu régler. Entre autres, nous avons vu que lui, son problème, c'était des déviations sexuelles aiguës, régulièrement. Et il s'est fait avoir avec ça. Il a été voir. Il s'est marié d'abord avec une étrangère, ce que la loi de Moïse interdisait. Tout ça pour provoquer ses parents et les Philistins. Ensuite, il a commencé à aller voir des prostituées. Il a fait plein de trucs. Il n'arrêtait pas de provoquer les Philistins. Dieu ne lui avait pas demandé de ça. Dieu lui avait demandé d'écarter les Philistins, une bonne fois pour toutes, du territoire d'Israël. Dieu n'avait pas demandé à Samson d'aller provoquer. Et il s'est servi des dons de Dieu qu'il a abusés. Et parfois, nous avons des serviteurs de Dieu, tristement, qui utilisent leurs dons pour abuser le peuple de Dieu, pour soutirer honteusement de l'argent de la mauvaise façon, non pas pour l'œuvre de Dieu, mais en utilisant des trucs bizarres de manipulation, etc., 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 et, ou d'autres choses à propos de miracles ou de guérison. Souvent, quand certains ont des dons de miracles et de guérison, où Dieu les utilise comme cela, au bout d'un moment, un certain nombre de serviteurs de Dieu dévient malheureusement et utilisent ça pour s'enrichir d'une façon honteuse. Il faut le dire. Je ne dis pas que le serviteur de Dieu ne doit pas être prospère, qu'on soit bien d'accord, mais il doit être prospère selon l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Il ne doit pas asservir son peuple, rendre pauvre son peuple et soutirer les choses de son peuple, parce que ça c'est pervers. Et surtout ne pas utiliser ses dons pour soutirer de l'argent au peuple de Dieu. Ça c'est extrêmement mauvais. Celui qui commence à avoir une guérison dans une de ses réunions et 5 minutes après il dit « Ah, le Seigneur me dit de faire une offrande ». Ça, c'est de la manipulation, parce qu'il sait que les gens sont « Ah, gloire à Dieu, le boiteux vient de marcher devant tout le monde. » Tout le monde éclate en louange et commence à s'approcher en disant « Oui, Dieu vient de me dire qu'il faut qu'on fasse une offrande, rapidement. » Tiens donc, pourquoi rapidement? Parce qu'il sait que les gens sont sous les émotions, vous voyez. Et donc, il va les manipuler. Et tristement, on voit un certain nombre de personnes dévier à cause de cela. Et Samson a dévié. On a vu que la crédibilité du leader, c'est quelque chose qui est très important. Et rappelez-vous aussi d'une chose, un leader n'est pas parfait. Il va faire ses erreurs et parfois il va tomber aussi dans le péché. Ça peut arriver. Maintenant, ne mettez pas une croix sur un leader qui se retrouve par terre. Ne soyez pas parmi les Judas qui sont là en train de planter des couteaux dans le dos de leaders qui ont chuté. De profiter d'une erreur d'un leader. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Si vous n'êtes pas satisfait d'un leader, partez toujours par la petite porte et dites-lui merci, mais je ne me sens plus de la partie. C'est tout, tout simplement. Mais ne faites jamais d'histoire, ne faites jamais de division, ne partez jamais en claquant la porte, vous aurez toujours tort. Dieu ne vous justifiera jamais dans ces cas-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec un leader, vous suivez quelqu'un parce que vous voulez le suivre. S'il fait des erreurs et s'il pêche et que vous n'êtes plus d'accord avec ce leader, vous pouvez partir mais par la petite porte. Ça c'est biblique. Mais jamais en claquant la porte et en faisant tout un tas de dégâts dans l'église ou parmi le peuple de Dieu, en parlant à tout le monde, il a fait ça, etc., etc., en le dénonçant publiquement. Ne faites jamais ça, ça pourra vous coûter cher par la suite. Alors, nous avons vu qu'il faut faire extrêmement attention à notre crédibilité. Nous allons voir la 7e loi, la loi du respect. 7e loi, la loi du respect. Dans la loi du respect, il y a le principe suivant. Notez que les gens suivent de manière naturelle les leaders qui sont plus forts qu'eux-mêmes. Les gens suivent de manière naturelle les leaders plus forts qu'eux-mêmes, qui sont plus forts qu'eux-mêmes. Vous savez, les gens ne suivent pas les autres par accident. Les gens ne suivent pas les autres par accident. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Quand vous observez le leadership, vous verrez qu'il y a des gens qui suivent des leaders. Et il y a aussi des leaders qui suivent des leaders. Tout ça, ce n'est pas accidentel. C'est la loi du respect. C'est la loi du respect. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être influencé et de trouver des leaders que l'on respecte. Parce que tu as besoin de t'identifier. Et dans le respect, il y a vraiment une loi qui est importante. Quelque part, tu as besoin d'être influencé par quelqu'un. Tu as besoin d'être dirigé par quelqu'un. Que tu le veuilles ou pas, c'est toujours comme ça dans la vie, d'une manière ou d'une autre. Mais pour ça, tu vas chercher des modèles. Tu vas chercher quelqu'un qui va t'inspirer, ce qui est normal. Quelqu'un chez qui tu vas t'identifier. Tous, nous dirons dans nos vies, bien, il y a une personne qui m'a vraiment marqué dans ma vie. Et par exemple, j'ai eu le privilège de suivre ses cours. Et c'est lui qui m'a formé, etc. etc. Pourquoi ? Parce que tu cherches quelqu'un. Mais si tu as quelqu'un qui t'a formé à un certain niveau et que d'un seul coup, tu rencontres quelqu'un qui a un niveau très supérieur, tu vas avoir tendance à laisser le premier leader et aller chercher l'autre leader. Ça, c'est quelque chose qui est entre guillemets naturel chez les gens. C'est normal. Pourquoi ? Parce que tu te sens attiré par quelque chose. Tu te sens attiré par des leaders et surtout des leaders qu'on respecte énormément. Parce que vraiment, au niveau du leadership, sans le vrai respect, notez que sans le vrai respect, on ne peut vraiment rien accomplir en tant que leader. Sans le vrai respect, nous ne pouvons rien accomplir en tant que leader. Parce que vous savez, les gens peuvent vous suivre parfois par force. Il y a des gens qui peuvent vous suivre par force, par contrainte, parce qu'ils sont obligés. D'autres peuvent vous suivre par choix. Mais les meilleurs suiveurs que vous aurez jamais, c'est ceux qui vous suivent parce qu'ils vous respectent. Les meilleurs suiveurs que vous aurez jamais, ce sont les gens qui vous suivent parce qu'ils vous respectent. C'est une loi du leadership. C'est sûr qu'un patron, vous devez suivre ce patron, bon, c'est un choix dans un sens parce que vous avez adhéré, enfin vous êtes employé dans son entreprise, mais aussi vous êtes obligé de faire ce qu'il vous demande de faire. Vous pourriez dire non, moi je veux faire ça comme ça. Et le patron te dira ah, c'est moi le boss. Tu dois me respecter, vous voyez ? Mais ça, ce n'est pas un bon leadership. Le meilleur leadership, c'est quand les gens vous suivent par respect. Ça, c'est très important. Et nous allons justement voir cette loi du respect, qui est une loi qui est très importante et qui est souvent extrêmement mal comprise. Extrêmement mal comprise parmi beaucoup de gens. Numéro 1, on va voir les idées préconçues sur le respect. Les idées préconçues sur le respect. Les idées préconçues sur le respect. Alors, par exemple, une idée préconçue, c'est que le respect est une position. Il y a des gens qui disent « le respect est une position ». Je suis le patron, je suis le directeur, je suis le mari, donc tu dois me respecter. Vous voyez, à cause de la position. Ah, un téléphone portable qui m'appartient. Merci frère, je vais aller le vendre, tu m'indiqueras le quartier où je peux le vendre pas cher. Éteignez vos téléphones portables, s'il vous plaît. Merci. Donc, première idée préconçue, c'est que le respect est une position. Mettez vos doigts dessus, s'il vous plaît, sur vos haut-parleurs quand vous éteignez vos téléphones portables. Merci, soyez discrets. Nous avons besoin de... C'est la loi de la discrétion. Ce n'est pas une loi du leadership, mais c'est quoi que... On doit être discret aussi en tant que leader. Le respect est une position. Donc, c'est des gens qui disent, voilà, comme je suis le patron, tu me dois le respect. Je suis le mari, donc femme, tu dois te soumettre. Ok, tu peux voir les choses comme ça, mais tu n'iras pas loin. Je suis le pasteur, donc taisez-vous. Ok, les gens vont se taire, par obligation, par force. Alors, deuxième chose, une autre idée préconçue, le respect est un titre. Le respect est un titre. Ça, c'est la deuxième idée préconçue, qui est mauvaise aussi. Le respect est un titre. Je suis le représentant, donc tout le monde doit faire des courbettes devant moi. Je suis le représentant, l'enseignant, le pasteur, donc tout le monde me doit les honneurs. Tout le monde me dit « Ah, il y a le monsieur le représentant qui est là, tout le monde est là. » Puis le gars, il est là. C'est moi. Ok, si tu as un tel leadership, tu n'as rien compris au leadership. En tout cas, ce n'est pas divin, ça. Ça, c'est charnel. Les gens doivent te respecter, oui, d'accord. Mais si ton leadership est à ce niveau-là, nous le verrons, c'est vraiment... Ton leadership est très pauvre dans ce cas-là. Parce que le jour où tu partiras, les gens vont parler sur ton dos en disant « Ah, celui-ci, pouf, qu'est-ce qui nous a dérangé avec ces histoires de courbettes, de protocoles et de machins. On n'en avait rien à faire. » Vous voyez ? Et c'est normal. Parce que t'as pas créé un leadership divin. Tu as créé un leadership charnel. Et tu as profité de ton titre, de ta position pour aller jouer les grands et les forts devant tout le monde. Sauf que, vous savez, les gens, parfois, devant nous, ils font semblant de nous respecter, et par derrière, croyez-moi, ils en disent certaines. Et c'est à nous, on va voir justement dans cette loi, c'est à nous de gagner, comme on verra, le respect. Alors, le respect est une question d'homme. Question d'homme. Par exemple, moi je suis de telle famille, alors on doit me respecter. Ah bon ? Moi je suis blanc, je suis noir, je suis jaune, on doit me respecter. N'importe quoi. Vous voyez, ça, il y a des gens qui pensent ça. Parce qu'ils arrivent, qui sont de telle famille, qui sont de telle couleur, ils s'imaginent que tout le monde doit les respecter à cause de ça. Ça, c'est pas le respect, c'est la stupidité. Tu peux être d'une grande famille et être un grand stupide qui fait n'importe quoi et qui gâchera tout l'héritage familial. Ou qui mettra la honte à toute la famille. Donc c'est pas d'où tu viens, c'est pas ça dont tu dois te faire, tu dois te targuer, c'est-à-dire te vanter. Mais tu dois apprendre, on va voir comment gagner le vrai respect en tant que leader. Vous savez, il y a des bonnes circonstances dans lesquelles on peut se trouver parfois. Nous devons simplement dire merci Seigneur pour ces bonnes circonstances. Mais nous ne devons jamais utiliser des bonnes circonstances pour s'élever au-dessus des autres. Faisons bien attention à ça. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui le font dans ce monde et ils se trompent. Ils se trompent sérieusement. Donc tout ça, c'est vraiment faux. C'est vraiment faux. Notez que quand un leader a de l'influence, écoutez bien ça, quand un leader a de l'influence, les gens commencent à le suivre. Quand un leader a de l'influence, les gens commencent à le suivre. Quand un leader a gagné du respect, les gens continuent à le suivre. Donc, quand un leader a de l'influence, les gens commencent à le suivre. Quand il a gagné du respect, les gens continuent de le suivre. Et il y a une grande différence. Vous savez, parfois, vous pouvez très bien commencer en leadership. Les gens commencent à vous suivre. Et on le voit. Vous savez, nous les pasteurs, il faut qu'on fasse très attention à cela. Parce qu'il y a parfois des gens qui commencent à nous suivre parce qu'on a un bon message, parce qu'on commence à organiser les choses, etc., etc., etc. Mais on n'utilise pas cette loi du respect. Je connais comme ça les pasteurs qui se sont retrouvés sérieusement, même des gens qui avaient des grosses églises. Et on les voit, on commence à voir leurs églises diminuer très sérieusement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'utilisent pas cette loi du respect. Cette loi du respect. Donc, quand vous avez de l'influence, les gens commencent à vous suivre. Maintenant, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, les gens vont continuer à vous suivre ? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Parce qu'avoir un certain succès en tant que leader, c'est bien. Mais comment tu vas manager ton succès et aller encore plus haut les années plus tard ? Eh bien, la loi du respect va jouer ici en ta faveur ou en ta défaveur. Il y avait une femme dans l'Ancien Testament, une certaine Déborah. Déborah, vous trouverez son histoire dans Juges chapitre 4 et chapitre 5. Déborah, c'était une femme au milieu de quoi ? Juges chapitre 4 et chapitre 5. Une femme au milieu d'une culture où les hommes faisaient tout en Israël. Mais cette femme a su gagner du respect vis-à-vis du peuple de Dieu. À tel point que la Bible l'appelle, le peuple de Dieu l'appelait maman, pour vous dire. Ça, c'est du respect, ce n'était pas un titre. Même le chef de l'armée respectait Déborah. Si vous lisez son histoire, relisez son histoire, là je vous dis, on n'a pas le temps de lire des grands passages, de longs passages bibliques pendant ce cours, parce que déjà, je suis obligé d'aller assez vite dans certains domaines. Mais elle a été appelée la mère de son peuple, imaginez-vous. Elle va vraiment aider Israël pendant une quarantaine d'années. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Par contre, cette femme a été respectée au milieu d'un monde d'hommes, de leaders qui n'étaient que des hommes. Le respect se gagne. Souvent, les gens disent... J'ai comme ça une sœur, un jour, qui est venue me voir, qui est pasteur, qui a commencé une église au Burundi, et elle me disait, « Ah, pasteur, tu sais, en plus, je suis une femme. » Je dis, « C'est pas grave. Tu peux très bien être femme pasteur. Si le Seigneur a ta oint, si le Seigneur a mis sur toi vraiment une onction et qu'il t'appelle à cela, tu vas l'être. Bien sûr, tu auras, entre guillemets, cet obstacle où c'est vrai que les hommes ont du mal à respecter une femme serviteur de Dieu. On ne dit pas serviteuse à Kinshasa, on ne dit pas ça. Hein. Mais, ou une femme businessman, etc., etc. Vous savez, parfois, les femmes ont du mal à s'imposer dans les milieux des hommes. Et parfois, certaines sont très dures. Il y a des fois des mamans là, qui sont très dures, très costauds devant les hommes et qui frappent très fort. Parce qu'en fait, elles se sentent insécures quelque part. Non, apprends à gagner en respect. Si tu apprends à gagner en respect, mais même n'importe quel homme te respectera. Sans aucun problème. C'est ce que nous allons découvrir. Et cette femme, Déborah, elle a su se faire aimer par son peuple. Le peuple qui n'avait jamais vu une femme à sa tête. Et là, c'est une femme juge, prophétesse, qui a réussi à pleinement gagner du respect. Elle a été leader, elle a restauré le peuple d'Israël, elle a été une grande bénédiction, et elle a été appelée la mère d'Israël. Numéro 2 maintenant, comment gagner du respect? Comment gagner du respect? Donc vous avez bien compris, d'abord, le leadership, cette loi du respect est indispensable. Vous êtes influent, les gens commencent à vous suivre, d'accord, mais est-ce qu'ils vont continuer à vous suivre? Ils continueront à vous suivre si vous avez gagné en respect, si vous appliquez la loi du respect. Très important. Ensuite, nous avons vu, numéro 1, les idées préconçues sur le respect. Numéro 2 maintenant, comment gagner le respect des autres en tant que leader. Il y a six choses à faire, parce que c'est une question de leadership, non pas de position, de titre ou de sexe. Six choses à faire si vous voulez gagner du respect. Numéro 1, vous devez vous respecter et respecter les autres. Ça, c'est la première chose. Vous respectez vous-même et respectez les autres. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Jésus l'a dit, la règle de l'amour, si tu veux avoir des gens qui te respectent, d'abord, tu dois les respecter. Si tu les méprises, si tu les abuses, si tu profites d'eux, si tu n'arrêtes pas de tout le temps pomper des choses de leur part et les jeter une fois qu'ils t'ont servi, tu ne seras pas respecté. Et il y a beaucoup de leaders qui sont comme ça, qui profitent d'un don ou de la bonne volonté de quelqu'un ou de la gentillesse de quelqu'un et le jour où ils n'ont plus besoin d'eux, pouf, ils les dégagent. Fais ça une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Je te garantis, autour de toi, tu n'auras pas les meilleures personnes. Les gens ne te respecteront pas, ils parleront sur ton dos. Et aussi une chose, il y a parfois des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. La Bible nous dit d'aimer, aime ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui ne se respectent pas, qui ne respectent pas leur corps, qui sont toujours mal habillés, qui n'ont pas d'hygiène, etc. Respecte-toi, mon frère. Je ne te dis pas d'aller dans des salons de coiffure et de rester 2 heures devant ton miroir tous les jours. Mais il y a un minimum. Parmi les chrétiens, il y a un minimum, frères et sœurs. Parfois, on voit des gens, on a l'impression vraiment qu'ils ne se considèrent pas comme des créatures de Dieu. Et ça, ce n'est pas bien. Tu vas me dire, oui, mais ça coûte un peu de sous. Oui, ça coûte des sous. Mais tu dois apprendre à te respecter. Je ne te dis pas de faire des shows de mannequins ou de modèles. Je ne dis pas ça. Mais il doit y avoir du respect de ta personne. De toute façon, tu auras du mal à respecter les autres si toi-même, tu ne te respectes pas. Soyons bien clairs. Il y a des gens qui vraiment, ils se négligent dans tous les sens, ils parlent n'importe comment, ils font n'importe quoi. Comment est-ce que tu veux être respecté dans ces cas-là? Les gens te voient, ils ont une image, ils cherchent un leader. Ils ne cherchent pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi. Les gens qui font n'importe quoi ne sont pas suivis. Ils peuvent même avoir des charismes, des dons divins. Ces gens-là, au début, on va être étonné, on va les suivre comme ça, mais rapidement, on va dire, mais non, il fait n'importe quoi, il nous traite n'importe comment. Et à ce moment-là, les personnes partiront, elles ne continueront pas à vous suivre. Et là, le leader se fâche parfois. Et c'est là où le leader tourne mal. Il commence à manipuler les gens en disant, non, Dieu m'a dit, alors que Dieu n'a pas dit. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Non, respecte les autres et respecte-toi aussi. Numéro 2, faites faire plus de chemin aux autres. Ça, c'est important. Ça, c'est une grande clé. Moi, je l'utilise souvent, ça. Faites faire plus de chemin aux autres que vous dirigez que ce qu'ils attendent de vous au départ. Faites faire plus de chemin aux autres que vous dirigez que ce qu'ils attendent de vous au départ. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à les diriger et qu'est-ce qui se passe? Vous dites aux gens, voilà, nous allons réaliser ça et ça. Mais amenez-les beaucoup plus loin. Amenez-les beaucoup plus loin. Je vais répéter la phrase précisément. Donc, faites faire plus de chemin aux autres que vous dirigez que ce qu'ils attendent de vous au départ. Ça, c'est très important. Quand les gens, vous les amenez dans un rêve qu'ils n'auraient même pas pu imaginer, beaucoup plus loin que ce que vous leur avez dit au départ, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vous respectent énormément. Moi, je vois, par exemple, une chose simple quand on est pasteur. Je vais vous dire une chose. Très simple quand on est pasteur. Depuis que nous avons acheté notre bâtiment à Bujumbura, mais les gens nous respectent. J'en suis même parfois choqué. Même les catholiques nous respectent. Et les cathos sont des fervents ennemis des protestants au Burundi, je peux vous dire. Je pourrais vous raconter. Ils ont préparé une loi, un projet de loi qu'on a fait arrêter, qui voulait complètement dégrader les églises protestantes. Très grave, mais vraiment un truc très très grave. Très grave. Et heureusement qu'on a de l'influence parce qu'on a pu faire arrêter ces choses-là. C'était quasiment, ça allait être amené au Parlement, pour vous dire. Mais quand les gens voient que vous les amenez dans des résultats qu'ils n'attendent même pas, qu'ils soupçonnent même pas, les gens sont tellement heureux qu'ils vous respectent. Moi, j'ai des cathos parfois. J'entends, c'est des gens qui parlent. Vous savez, moi, je ne suis pas du genre à aller me faire voir à droite, à gauche. Il y a des vieux cathos, là, dont les enfants, qui sont plus très jeunes maintenant, qui ont 35, 40 ans, certains d'entre eux, qui sont à l'église et me disent « Oui, mon père, l'archevêque machin truc catholique, là, a parlé à mon père qui est catho, et il dit vraiment El Shaddai, blablabla, blablabla. » Je dis « Gloire à Dieu !» Vraiment, ce qu'ils enseignent au moins là-bas, c'est vraiment très bien. Ils ont du respect. Ils ont du respect, mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Parce qu'on a amené nos chrétiens là où eux-mêmes n'imaginaient même pas qu'on aurait pu les amener. Vous voyez ? Et il y a des choses en tant que leader que vous devez faire. Quand vous faites beaucoup plus de chemin que ce que les gens attendent de vous au départ, ils disent « mais vraiment, c'est extraordinaire ». Ils n'ont plus rien à dire. Même les gens qui vous critiquaient ferment leur bouche. Parce que s'ils ouvrent, c'est les autres qui vont leur dire quelque chose. « Mais arrête !» Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, par contre, c'est quelque chose qu'un leader doit apprendre à faire. Moi, j'ai appris une chose, c'est à être 1000 kilomètres beaucoup plus loin en avant que par rapport à mon peuple, ceux que je dirige. Je fais exprès tout ça. Je suis toujours dans des visions, dans les choses que le Seigneur me montre. Là, je suis en train de travailler sur une télé francophone internationale, parce que je sais que c'est des choses qu'il faut qu'on fasse absolument. Sur satellite, qui amènera partout sur l'Afrique, qui amènera au travers des box internet en Amérique du Nord et en Europe. Ça, c'est quelque chose que je veux voir et qu'on va faire au travers d'Enseigne-moi. Mais partout, on va aller plus loin, toujours plus loin, pour que si vous amenez les gens plus loin que ce qu'ils attendent au début, mais ils sont heureux. Ils sont heureux et vous êtes heureux aussi. Parce qu'ils vous suivent, parce que vraiment ils ont du respect par rapport à ce que vous faites. Maintenant, il ne faut pas idéaliser le leader. Le leader aussi a ses problèmes, qu'on soit bien d'accord. J'insiste là-dessus, parce que parfois, vous voyez, des gens sont utilisés par Dieu. Parfois, on va très loin, mais parfois aussi, on a nos problèmes perso. Et parfois, ça ne plaît pas à certains chrétiens, mais c'est le cas. Mais par contre, amenez-les toujours beaucoup plus loin. Dans une entreprise, si tu fais beaucoup plus de résultats et qu'à la fin de l'année, tu dis « Écoutez les gars, on a tellement gagné d'argent cette année, allez, vous avez une rallonge chacun, une grosse rallonge. » Mais les gens, ils vont vous respecter d'une façon incroyable. Plutôt que de dire « Moi, je ramasse tout, je suis le boss. Les mecs, vous avez bien bossé, mais c'est moi maintenant qui a beaucoup d'argent, seulement moi. » C'est stupide. Les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est stupide. Si tu as gagné beaucoup d'argent en tant que boss, mais donne-en aux gens qui ont bien bossé. Ils vont te respecter. Ils vont dire vraiment, merci patron. On a bossé, mais on voit qu'au moins, tu ne nous prends pas pour des chiens, entre guillemets, pour des gens qu'on a utilisés. Et finalement, tu as gagné beaucoup de sous. Et puis nous, on n'a rien et on vit difficilement. Vous comprenez? Ça, c'est important. Amenez-les beaucoup plus loin. Numéro 3. Être quelqu'un de conviction. Quelqu'un de conviction. Là aussi, très important. Saül n'était pas quelqu'un de conviction. Quand il y avait des dangers, des difficultés, il reculait. Si tu n'es pas quelqu'un de conviction, fais attention. Parce que ce que tu dis en tant que leader, les gens l'entendent. Et quand ça commence à chauffer, les gens vont te regarder. Si tu es le premier à fuir quand il y a des moments difficiles, tu ne seras jamais respecté. Et s'il y en a un autre, et regardez l'histoire de David et de Saül devant Goliath. Saül aurait eu l'opportunité gigantesque de gagner le respect de son peuple. Mais il était assez stupide pour laisser un petit gamin qui pensait qu'il serait complètement détruit et qui, lui, a relevé le défi. Qui a-t-on respecté après l'histoire une fois que Goliath a été tué ? Saül ? Bien sûr que non, c'est David qui a été respecté. Et pourtant, il n'était pas encore dans le leadership tel quel. Mais il a marqué un point gigantesque ce jour-là. Quand tu es leader, si tu veux gagner du respect, il faut que tu sois dans tes convictions. Et tes convictions seront éprouvées, fais attention. C'est là, sous les pressions. Vous savez, si vous voulez avoir le jus d'un fruit, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne regardez pas une orange en disant « Orange, donne-moi ton jus !» Non, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas presser cette orange et le fruit va en sortir. C'est la même chose pour nous. Ce que nous sommes réellement, c'est sous les pressions que tu le verras. Sous les pressions. Donc tu as intérêt à être quelqu'un de conviction, pas quelqu'un qui fuit à n'importe quel moment. Numéro 4, en acquérant de la maturité et de la sécurité sans vous glorifier. En acquérant de la maturité et de la sécurité sans vous glorifier. En acquérant de la maturité et de la sécurité sans vous glorifier. Ça aussi c'est important. Déborah ne s'est jamais vantée, si vous lisez son histoire, des victoires qu'elle a remportées. Maturité et sécurité dans l'humilité, c'est très important. Tu avances et tu dis de toute façon et sincèrement de tout cœur, je remercie le Seigneur. C'est tout. Comme dit Jésus, une fois que vous avez fait ce que vous avez fait, dites simplement, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est tout. Tu n'as pas besoin de te vanter, tu n'as pas besoin de jouer. Maintenant, je suis devenu un grand dans la cour des grands. Je me souviens un jour, j'ai failli éclater de rire. J'étais en France et il y avait un prédicateur qui fait des réunions un peu en dehors des églises, avec les groupes catholiques charismatiques et aussi certains groupes protestants. Et puis, on était avec lui, mais j'ai vraiment rigolé ce jour-là. Enfin, à l'intérieur, on en rigole encore avec le frère avec qui on était. Puis j'étais avec un frère, et puis ce prédicateur-là, bon, c'est vrai, il a réussi certaines choses, mais il nous disait, ah oui, vous n'êtes pas encore dans la cour des grands. Ah là là, cette expression, je l'ai vraiment retenue, j'en rigole encore. Mais il y a vraiment des gens, mais franchement, c'est pas parce que le Seigneur t'a amené dans une certaine dimension que tu dois dire, maintenant, je suis le super ambassadeur du royaume de Dieu. Partout où je mets les pieds, tout se courbe devant mes pieds. N'importe quoi. Il y a vraiment des gens qui sont vaniteux, orgueilleux. C'est triste à dire. C'est vraiment triste à dire. Non, reste simple, reste toi-même. Très important, où que tu sois. Où que tu sois, sache rigoler avec ceux qui rigolent, sache pleurer avec ceux qui pleurent. Sache être quelqu'un d'abordable, quelqu'un, une personnalité ouverte. Non pas quelqu'un à qui on doit se laver les mains avant de s'approcher de toi. Je trouve ça vraiment d'une stupidité. Mais bon, que le Seigneur les bénisse. Numéro 5, en réussissant vous-même ce que vous faites dans la vie. Ça aussi c'est important, en réussissant vous-même ce que vous faites dans la vie. Ça, c'est important. Si tu es un échec, ne va pas dire aux autres, on va réussir. Non. Quelqu'un disait un jour, je me souviens, c'était intéressant, c'était une réflexion que je m'étais faite aussi, mais qui l'a bien sorti. Il a dit, si tu es un échec dans la vie professionnelle, comment est-ce que tu penses réussir en tant que serviteur de Dieu ? Mais il y a des gens, ils sont bourrés d'illusions. Soyons clairs, si tu n'es pas capable de réussir ta vie professionnelle, comment est-ce que tu peux servir le Seigneur ? Ça sera beaucoup plus difficile de servir le Seigneur. Pourquoi ? Parce que quand tu vas commencer une œuvre, il n'y aura pas de revenus. Il y aura aussi des difficultés familiales, parce que ta famille va souffrir quand tu sers le Seigneur. Surtout quand tu commences des œuvres. Parce que l'œuvre ne peut pas te soutenir. Il n'y a pas de maturité, etc., etc., etc. C'est très précaire, et ça peut être précaire pendant 5 ans, 10 ans, ou des fois même plus. Si tu n'es pas capable de réussir des choses toi-même dans ta propre vie, comment est-ce que tu veux réussir l'église de Dieu ? Alors là, je n'entends plus d'amen, là. Oui, mon frère. Sois clair, si tu es un échec dans cette vie, d'abord réussis, commence à réussir des choses dans ta vie. après tu pourras amener les autres dans la réussite. Ne pense pas que parce que d'un seul coup Dieu t'a dit ceci, Dieu t'a dit cela, que tu vas réussir automatiquement alors que tu es incapable de réussir dans ta vie. Ça, c'est une illusion qu'on a chez beaucoup de gens, surtout chez les jeunes. Vous savez, les jeunes, ils parlent beaucoup. Ils sont là, moi, Dieu m'a dit, moi, d'accord, va payer une facture d'électricité, après on parlera. Va payer ton loyer, après on parlera. Nourris tes enfants. Ah mais oui, mais je ne suis pas encore marié, mais moi je sais comment faire. Et lui, je le vois, ce papa-là et cette maman-là, ils font pas bien, ils savent pas comment faire. Moi, je vais leur expliquer, moi. Oui, d'accord, mais pour l'instant, tu n'as rien fait dans la vie. Soyons clairs, frères et sœurs. Soyons clairs. Si tu n'es pas capable de réussir des choses dans la vie, si tu n'es pas quelqu'un d'impliqué dans la vie de tous les jours, ne parle pas. Tais-toi, observe, grandis, et le jour où tu commenceras à réussir, tu pourras commencer à ouvrir la bouche. Amen. Ça c'est un homme âgé qui applaudit, hein. C'est pas un jeune. Hein. Non mais sérieusement, il faut faire attention à ça, parce qu'on a beaucoup de jeunes, ils pensent qu'ils savent tout de la vie. On étudiera ça aussi. Ensuite, numéro 6, et dernière chose, en contribuant au succès des autres. En contribuant au succès des autres. Ça, c'est important aussi. Un leader qui ne veut que gagner que pour lui-même, c'est pas un bon leader. Il doit être capable de trouver des personnes. Ça prend du temps. C'est pas en deux jours, ça. Mais il doit être capable de trouver des personnes dans lesquelles il va investir ses connaissances. Qu'il va investir. Jusqu'à temps que cette personne puisse réussir, l'aider à réussir, lui donner des secrets. J'en parlais hier, il y a beaucoup de prédicateurs qui forment d'autres jusqu'à une certaine limite et qui ne leur livrent jamais les vrais secrets de la réussite parce qu'ils ont peur que l'autre puisse réussir mieux qu'eux au bout d'un certain temps. Et ça montre une carence du caractère du leader à ce moment-là. Les autres peuvent réussir, s'ils réussissent mieux que toi, gloire à Dieu. Normalement, les générations qui viennent après nous devraient mieux réussir que nous, c'est normal. Parce qu'ils peuvent profiter de notre expérience. Ils peuvent éviter les erreurs que nous avons faites. Et ça, c'est important. C'est très important. C'est comme des enfants de chrétiens. Les enfants de chrétiens devraient aller beaucoup plus haut que les parents eux-mêmes qui se sont convertis et qui ont vécu une vie de pécheur avec tout un tas de problèmes qu'ils ont dû résoudre au fil des années. Vous voyez ? Et c'est la même chose pour les serviteurs de Dieu. Celui qui commence une œuvre, il est obligé de démarrer à zéro et de tout faire. Mais ceux qu'il forme au fil des années, des dizaines d'années, eux doivent mieux réussir que lui. Numéro 3, grand 3. Là, on avait fait grand 2, comment gagner du respect, on avait eu 6 points. Maintenant, grand 3. Gagner le respect des autres prend du temps. Et vos suiveurs vous observeront. Ouh là là. Et vos suiveurs vous observeront. Gagner du respect des autres prend du temps et vos suiveurs vous observeront. Gagner le respect des autres prend du temps et vos suiveurs vous observeront. Alors voilà ce que les suiveurs vont regarder chez vous en tant que leader. Trois choses que les suiveurs observeront chez vous. Il y a trois choses importantes. Que vos suiveurs regarderont dans le temps, bien sûr. Ça va pas, qui regarderont pas ponctuellement, mais dans le temps. Trois choses. La première chose, c'est si vous les aimez réellement. Si vous les aimez réellement. Ça veut dire, est-ce que vous voulez le meilleur pour les gens qui vous suivent? Est-ce que vous voulez le meilleur pour les gens qui vous suivent? Est-ce que vous les aimez vraiment? Les gens observeront. Quand les suiveurs commencent à dire vraiment, notre pasteur nous aime vraiment, qu'ils le disent vraiment de tout cœur, c'est un bon signe. Parce qu'ils ont vu en vous, sur une période de temps, que vous les aimez vraiment, que vous voulez vraiment qu'ils réussissent. Un bon leader veut que ses suiveurs réussissent. Pas pour lui, mais pour eux. Vous voyez ? Pas pour lui, mais pour eux. C'est important. Si tu es tout le temps en train d'asservir les gens sont mal, les gens n'ont pas une bonne vie, alors que tu les diriges, c'est que tu as un problème. Les gens doivent réussir à tous égards, dans leur relation avec Dieu, dans leur relation avec les autres, dans leurs finances, dans leur santé, dans leur famille, partout. Si tu les aides à réussir comme ça, mais ils t'aimeront réellement, parce que tu les auras aimés le premier. Le leader doit aimer les gens. Un leader qui n'aime pas son peuple, c'est un leader qui n'a rien compris au leadership. Et les gens le sauront rapidement. Numéro 2, les gens observeront si vous êtes un investisseur ou une pompe, un preneur. Ils verront avec le temps si vous êtes donc un investisseur. Numéro 2, si vous êtes un investisseur ou une pompe, c'est-à-dire un preneur. Un investisseur, c'est si vous mettez en eux les choses, les ressources, si vous les aidez régulièrement pour qu'ils puissent devenir les meilleures personnes selon Dieu. Ils observeront ça. Ou au contraire, si vous êtes tout le temps en train de les solliciter, de les pomper. Ça, c'est très mauvais pour un leader. C'est très mauvais. Il faut apprendre à investir chez les gens. Vous investissez la parole, vous investissez du temps, vous investissez des ressources, vous les aidez à droite, à gauche, quand il y a un problème, vous essayez de faire quelque chose pour eux, etc., etc., etc. Plutôt que de leur dire tous les dimanches, il faut donner vos dîmes, ou alors une expression que je hais, vous devez payer vos dîmes. On ne paye pas la dîme. Les finances, c'est une semence. On donne au Seigneur, parce qu'on aime le Seigneur. Il y a des enseignements sur les finances que la parole de Dieu nous montre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens voient et verront si vous êtes quelqu'un qui prend toujours, qui toujours demandez, et eux, quand ils ont des problèmes, vous n'êtes jamais là. Le pasteur qui est là, il donne son sermon, il fait les dîmes et offrandes, bye bye. Si vous voulez me voir, c'est très compliqué, vous ne pourrez pas me voir facilement. Enfin, il ne dit pas ça ouvertement, mais finalement, il vit complètement à part. Et ce qui l'intéresse, c'est juste d'exercer la parole de Dieu, de prier un petit peu pour les gens, de toucher les dîmes et les offrandes, et bye bye. Ça, c'est très très mauvais comme leadership. Et constamment, on pompe les gens. Jusqu'à temps qu'ils n'en puissent plus. Numéro 3, les gens vont observer si vous êtes un résolveur ou un amplificateur de problèmes. Numéro 3, si vous êtes un résolveur ou un amplificateur de problèmes, ça veut dire comment vous gérez les situations. Il y a des leaders qui ne sont que des gens conflictuels. Partout où ils passent, c'est des histoires, ils parlent sur les autres, ils font des histoires, etc., etc., etc. Et ça, c'est très mauvais pour un leader. Un leader doit savoir se tenir et tenir sa langue. Un leader à qui vous confiez quelque chose de votre vie personnelle et qui commence à raconter ça partout, sur la rue, c'est quelqu'un en qui vous n'aurez pas confiance, donc il n'y aura pas de respect. Voyez ? Et c'est important de voir aussi comment les personnes vont résoudre les conflits. Il y a des leaders qui créent des conflits au sein même des différents départements de l'organisation qu'il dirige. Ça peut être une église, ça peut être une société, etc., etc., etc. Un directeur, vous savez, qui crée des histoires d'un côté et de l'autre. Et les gens se tirent dessus. Et c'est lui qui a créé ce problème-là, au lieu de le résoudre. Alors qu'il y avait déjà du gaz dans l'air, il a craqué des allumettes pour que ça explose. Et il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment bien naviguer dans les histoires. Parce que ça leur permet toujours de tirer leur épingle du jeu. Mais ça, c'est un leadership païen, diabolique, charnel. Un bon leader va être un résolveur de conflits entre les gens. Il ne va pas diviser les amis, même si le groupe d'amis ne leur plaît pas spécialement. Mais au contraire, il va aider ces gens-là à comprendre comment ils doivent marcher dans l'amitié et dans quelque chose de positif. Les gens qui sont des sources à problèmes constamment, c'est vraiment mauvais. Grand 4 maintenant, les 5 niveaux du respect au niveau leadership. Les 5 niveaux du respect. 5 niveaux du respect. 5 niveaux du respect concernant le leadership. Nous parlons du leadership ici. On va commencer le niveau le plus bas. Donc, les gens vous suivent, numéro 1, à cause de votre position. Donc, je dois respecter le chef, le leader. Donc, le respect de par la position. Ça, c'est le type de leadership le plus pauvre. Les gens sont là, ils vous respectent parce que vous êtes le boss, parce que vous êtes le patron. Mais je vais vous dire une chose. ou parce que vous êtes le pasteur dictateur. Mais je vais vous dire une chose, à la première occasion, les gens partiront. Quand ils auront une opportunité de s'écarter de votre leadership, ils partiront. Ça, c'est clair. Parce qu'ils doivent vous respecter. Parce que vous leur avez fait comprendre qu'ils sont forcés de vous donner du respect. Donc ça, c'est vraiment le niveau du respect au niveau leadership le plus pauvre. Vous n'irez jamais loin si vous êtes ce type de leader. Numéro 2, par désir. Par désir. En fait, c'est des gens qui vous suivent parce que petit à petit, il y a une relation. Ils vous trouvent gentil, ils vous trouvent sympathique, ils trouvent que vous avez des bonnes idées, en fait. Donc, ils ont un désir de vous suivre parce que, bah voilà, vous avez raconté que vous voulez faire ça et ça. Et puis, petit à petit, il y a des relations qui sont nouées. Vous mangez avec eux, vous parlez souvent avec eux, il y a une certaine amitié, etc. Bon, ça, c'est pas mal, mais ça n'ira pas loin non plus. C'est pas un respect, ça va pas créer un leadership qui va être durable. Ensuite, numéro 3, par production. Par production. Ça, c'est les leaders qui mettent le focus sur les résultats. Donc les gens vous suivent par production, c'est-à-dire ils voient que vous faites des choses. Vous avez des bons programmes dans l'église, alors que là, dans l'église où ils sont, ben, le pasteur ne bouge pas trop. Donc ils vont vers votre leadership, parce que vous avez des bons programmes, parce que apparemment il y a des résultats, parce que vous commencez à construire l'église, parce que, vous voyez. Donc ils vous suivent parce qu'ils voient des résultats, et ils ont envie d'être dans une équipe finalement, ben, où on dit on a gagné, nous sommes des grands vainqueurs, nous gagnons, nous, ok. Et il y a des gens qui vous suivront pour ça, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui leur donne un sentiment de réussite. Ce qui n'est pas mauvais dans un sens, mais ça ne va pas encore très loin au niveau du respect. C'est sûr qu'un leader qui échoue tout le temps, on n'a plus envie de le suivre. On a besoin de quelqu'un, on a besoin d'un leader qui réussit des objectifs. Si c'est un pasteur, on doit voir l'église grandir, on doit voir l'église s'établir petit à petit, etc. Ça, c'est normal. Une église qui tourne en rond, où on raconte tout et n'importe quoi, les gens, au bout d'un moment, en ont marre et ils partent. Ou alors, s'ils ne partent pas, c'est qu'ils vivent dans un monde spirituel bizarre. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment se faire manipuler. Donc par production, quelqu'un qui est bien organisé, qui vous montre qu'on fait ça, qu'on a implanté tant d'églises maintenant, etc., etc. Numéro 4, par développement. Par développement des suiveurs. Alors là, les gens vous suivent et vous respectent parce que, en fait, le leader a développé le potentiel. Il est devenu un mentor. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des résultats, mais aussi il vous a formé. Il vous a formé et vous commencez à produire par vous-même. Donc le leader a investi en vous, il vous a mentoré et au bout d'un moment, vous-même, vous commencez à produire des résultats. Et là, vous suivez, vous respectez cette personne parce que vous dites, c'est lui qui m'a formé, c'est elle qui m'a formé. Je suis ce que je suis parce que justement, cette personne-là m'a aidé, m'a expliqué, m'a coaché, m'a mentoré, m'a entouré jusqu'à temps que je puisse moi-même devenir un leader. Ça, c'est un quatrième niveau du respect au niveau leadership qui est déjà un très très bon niveau. Mais il y a un niveau supérieur. Le cinquième niveau, et c'est le meilleur des niveaux, les gens vous suivent pour ce que vous représentez. Pour ce que vous représentez. En fait, vous suivez la personne parce qu'il représente pour vous une sorte d'idéal. Vous ne le suivez pas pour ce qu'il a fait seulement pour vous, mais pour qui il est et ce qu'il représente, ce qu'il émane de sa personne. Vous voyez, un exemple typique de ça, c'est Jacques Verneau. Jacques Verneau a été suivi par beaucoup et d'entre vous, entre autres, puisque vous êtes une extension La Borne ici, et il y a eu des extensions d'extensions, pour qui il était vers la fin de sa vie, il représentait quelqu'un. Et pourtant, il a formé beaucoup de gens, il a eu des résultats, vous voyez, il y a eu tous ces niveaux avant par lesquels il est passé, mais aujourd'hui, quand on parle de Jacques Verneau et La Borne, donc La Borne, Jacques Verneau, on a du respect pour ce que ça représente. Vous voyez la différence ? Pour ce que ça représente. C'est ça la différence. Ah oui, c'est un niveau de leadership extrêmement élevé. non pas pour dire, bon, il y a une église Laborne ou il y a des églises Laborne, mais pour vraiment ce qui a été, tout ce que ça représente derrière tout ça. Pas le bâtiment de l'église centrale Laborne, mais tout ce que ça représente, toutes les personnes dans lesquelles Laborne a investi, etc., etc. Vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est un niveau de leadership qui est vraiment extraordinaire. Donc, c'est des gens qui ont donné leur vie pour les autres, qui ont montré jusqu'au bout qu'ils étaient exemplaires, qui a formé d'autres, qui les a aidés à marcher dans la vision. Et c'est vraiment le vrai respect le plus élevé que vous ne pourrez jamais obtenir dans le leadership. Donc les gens ne sont pas là parce qu'ils ont quelque chose de vous, ils ne sont pas là pour des résultats, ils ne sont pas là parce que vous avez seulement investi en eux, et c'est vrai, ils vous ont aidé à devenir ce que vous êtes, mais ils sont là parce que vous représentez quelque chose. Vous représentez quelque chose. Il y a une image, un exemple, quelque chose de vécu jusqu'au bout. Et ça, c'est important. Vous savez, c'est très important au niveau du leadership. Donc vous voyez, cette loi du respect, c'est quelque chose qui est absolument fondamental à bien comprendre. Donc le respect, vous avez bien compris, ça se gagne. Le respect n'est pas du tout quelque chose que vous allez avoir parce que vous avez une position, parce que vous êtes de telle tribu, parce que vous êtes de telle famille, etc., etc. Ça, éradiquez de ça. Parce que je sais qu'ici en Afrique, c'est devenu encore très fort. Et ça, je le sais, et c'est mauvais. On est là, on respecte le gars parce qu'il a une Mercedes. Oui, il a peut-être une Mercedes, mais c'est peut-être le gars le plus corrompu du coin. Vous voyez ? Ou peut-être pas. Mais même s'il a gagné sa vie correctement et qu'il a acheté sa belle Mercedes toute neuve, c'est pas pour ça que tu dois la respecter. C'est pas ça le vrai respect. S'il pense qu'il doit être respecté parce qu'il a une belle bagnole, et souvent les gens sont comme ça, ils essaient de se faire respecter par les choses extérieures qu'ils possèdent. Mais c'est pas ça le vrai respect selon Dieu. Le vrai respect selon Dieu, c'est tout ce que tu auras investi, toute ta vie que tu auras donné pour les autres. Et les gens qui t'auront suivi, ils diront vraiment, cette personne-là, je le respecte pour qui il est. Pour qui il est. En plus de ça, voilà ce qu'il a fait, voilà toute la vision, etc., etc. Huitième loi, la loi de l'intuition. La loi de l'intuition. C'est une autre loi que nous allons aborder maintenant. L'intuition. Ça s'écrit I-N-T-U-I-T-I-O-N. Donc I-N-T-U-I-T-I-O-N. Première chose, numéro 1, la loi de l'intuition, huitième loi. Notez numéro 1, vous êtes ce que vous voyez. Vous êtes ce que vous voyez. Notez que l'intuition est indispensable pour le leadership. L'intuition est indispensable pour le leadership. L'intuition, c'est voir les situations, c'est lire les situations. L'intuition est indispensable pour le leadership. L'intuition, c'est voir les situations, c'est lire les situations. C'est ressentir les situations. Et l'intuition, vraiment, on pourrait dire, c'est du flair. Tu sens la chose, tu sens la situation. Et comme tu ressens bien la situation, tu vas apporter une solution divine à un problème humain, à un défi. Ça, c'est important. Et en leadership, c'est très important. Si tu n'es pas capable de résoudre des problèmes, tu vas te retrouver vraiment par terre. Parce que les gens qui te suivent, ils attendent que le leader amène des solutions. Et pour amener des solutions, il faut avoir du flair. Il faut savoir quoi faire au bon moment, au bon endroit, avoir la bonne impulsion. Nous parlerons de la sagesse, nous parlerons aussi de l'inspiration ici. L'intuition, en fait, réellement, c'est quelque chose qui vient de ton esprit. C'est un radar, en quelque sorte. Quand j'enseigne sur l'homme en trois dimensions, j'enseigne sur cette fonction de notre esprit. La réelle intuition, c'est une fonction de notre esprit. Comme la conscience est une fonction de notre esprit. Mais l'intuition, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, que tu ressens la situation. Et tu sais quelle solution divine apporter à ce problème. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important en leadership. Un leader qui n'a pas de flair dans les situations, c'est un leader qui va échouer. Il va diriger le peuple dans une direction et paf, d'un seul coup, il va échouer. Et après, il le redirige dans un autre endroit. Bon, peut-être que là, il va réussir. Et puis après, il va encore échouer une fois, deux fois. Et le peuple n'aime pas ça. Vous savez, quand vous dirigez des gens, il faut faire attention. Les gens aiment quand le leader les amène et que ça réussit. Ils ont horreur d'une chose, c'est d'être amenés par un leader en qui ils ont cru vers l'échec. Donc notez que l'intuition, c'est notre connaissance intérieure. Des informations internes, influencées par le Saint-Esprit qui habite en nous. L'intuition, ce sont des informations internes, influencées par le Saint-Esprit qui habite en nous. En fait, c'est agir au bon moment sous la bonne impulsion, parce que tu ressens les situations. C'est aussi te protéger. Il y a le côté de l'action et le côté de la protection dans l'intuition. Donc tu ressens les choses et tu dis, voilà, il faut qu'on fasse ça maintenant. Agir au bon moment, d'une façon divine. Mais aussi tu sais te protéger parce que tu sens qu'il y a un danger. Un danger peut-être pour l'organisation, un danger pour ta société, un danger divers. Tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne autour ici, qui n'est pas bon. Et tu te dis, il faut que faire quelque chose par rapport à ça. Parce que sinon, ça peut nous amener de sérieux ennuis. L'intuition, c'est ressentir, c'est lire les situations. C'est apporter des solutions, simples. Alors, il y a eu un homme qui est venu auprès de Moïse, qui s'appelle Jéthro. Vous lirez dans Exode 18 son histoire. Jéthro, c'était qui? Vous vous rappelez qui c'était, Jéthro? C'était le beau-père de Moïse, vous vous rappelez? Un jour, il vient voir Moïse, et Moïse faisait quoi? Dans Exode 18, Moïse était là, et tout le peuple passait devant Moïse, et Moïse tranchait et jugeait le peuple, par rapport à la loi de Moïse. La loi que Dieu lui avait donnée. Donc il passait du matin au soir à recevoir des gens. Et Jéthro est arrivé, et a vu Moïse. Et il lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que toute la journée, tu es en train de recevoir des gens, mais tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Et Jéthro avait vu que Moïse avait un problème de leadership qui s'appelle la délégation. Et tout de suite, Jéthro a su lire dans la situation de Moïse et lui a apporté une solution. On connaît tous cette histoire. Jéthro va lui dire, ben voilà, t'as qu'à nommer des chefs de 10, de 50, j'ai plus de 20, 50, peu importe, 1000, etc., etc. Et ils vont juger les affaires les plus courantes. Et toi, tu vas t'occuper des affaires principales. Parce que sinon, Moïse allait mourir d'épuisement. Parfois, il y a des leaders qui ne savent pas gérer leur leadership. Il y a des leaders, vous savez, ils sont au four et au moulin. Ils courent partout toute la journée. Non, il faut savoir se gérer. Un leader doit savoir gérer son leadership. C'est très important. Il doit savoir gérer son corps. Il doit savoir gérer son travail, l'efficacité. Il y a des gens qui travaillent très dur, mais qui ne travaillent pas d'une façon intelligente. Il y a une différence entre travailler dur et travailler de façon intelligente. C'est très différent. Il y a des gens qui bossent toute la journée comme des bêtes et qui gagnent quasiment rien. Il y en a d'autres qui font les choses principales, on étudiera ça aussi, et qui vont produire le plus. Et le leader doit se concentrer sur là où on produit le plus. Il ne peut pas se concentrer sur tout, ce n'est pas possible. S'il fait ça, il risque d'avoir des ennuis. Donc Jéthro va venir avec une solution très simple, parce que Jéthro était quelqu'un d'intuitif. Et nous devons absolument être intuitifs. Il faut avoir du flair dans les situations. Un jour, il y avait une entreprise qui a envoyé dans un pays en voie de développement, il y a bien longtemps, un agent, donc un directeur de leur société. Cette société-là, vendait des chaussures. Donc le directeur, billet tout frais payé, descend dans ce pays et regarde les habitants. Et il voit que les habitants ne portent pas de chaussures. Très rapidement, un jour ou deux après son arrivée, il appelle sur le siège et il dit, écoutez, je perds mon temps ici parce que personne ne porte de chaussures, donc on va vendre aucune paire de chaussures. Donc s'il vous plaît, renvoyez-moi un billet d'avion, je retourne directement au siège. Il avait vu la situation comme cela. Personne ne porte de paire de chaussures, donc c'est même pas la peine de vouloir amener un stock de chaussures pour les vendre, nous ne vendrons strictement rien. Puis ils ont fait descendre un autre directeur. L'autre directeur descend dans le même pays Et très rapidement, quelques heures après où il est là, il appelle tout de suite son siège et il dit « Allô, il y a un marché potentiel gigantesque, personne n'a de chaussures et on va vendre à tout le monde des chaussures. » Vous voyez, une perception différente. On peut regarder des fois des situations et on peut percevoir la situation de façon différente. Un bon leader ne parle pas problème, il parle solution. Attention à ça. Moi, les leaders qui n'arrêtent pas de me parler, il y a des problèmes dans le pays, je leur dis taisez-vous, s'il vous plaît. Des fois, je suis poli, je ne le dis pas directement, mais je n'aime pas entendre ce genre de truc. Pour moi, il faut regarder les solutions. Si tu n'es pas capable en tant que leader de lire les situations en apportant les solutions divines, laisse les autres diriger. Si tu es tout le temps en train de te plaindre des situations, rien ne marche là, rien ne marche à gauche, rien ne marche à droite, on ne fera jamais rien, on s'en sortira jamais, tu n'as pas de foi, tu n'as rien, tu ne vois rien. Un bon leader doit voir les situations, trouver les solutions, parce qu'il lit la situation d'une façon différente. Si c'est tes suiveurs qui te disent en tant que leader, « Pasta, excuse-moi, mais là tu as un problème mon frère, tu as un problème sérieux. » Si ce sont les gens qui te suivent, qui te donnent la lecture des situations, là tu as un sérieux problème. Dieu t'appelle à avoir de l'intuition, et ça, ça se cultive dans la présence de Dieu. Et c'est une question de mentalité. Dieu n'est pas celui qui t'a vu en te disant, ben, t'es pécheur, tant pis pour toi, j'ai pas de solution pour toi, tu mourras dans tes péchés, tu iras en enfer. Non, Dieu est venu apporter une solution. Jésus. Dieu te voyait en Christ. Avant même que Jésus se donne à la croix, il te voyait déjà. Quelqu'un qui voit les solutions. Arrête de tout le temps méditer sur les problèmes, ça ne sert à rien. Apprends à trouver les solutions. Et c'est ce que je vous disais précédemment, souvent, la différence entre réagir à une situation ou répondre à une situation. Tu réagis à une situation, ça veut dire que tu lis mal la situation, tu n'as pas d'intuition. Tu réponds à la situation, ça veut dire que tu es quelqu'un qui sait lire les situations. Et ça, c'est un art du leadership. Il faut savoir trouver des solutions avant même que les problèmes arrivent. Tu es là et tu dis, bon, nous avons une croissance, nous devons bouger. Ok. Nous allons amener la solution. Plutôt que d'attendre, attendre. Dieu va faire. Non. Le Seigneur va t'inspirer, mais tu dois le chercher et tu vas apporter la solution. Il y a trop de gens qui attendent et ils se retrouvent bloqués en leadership. Tu te retrouves bloqué. Pourquoi ? Parce que tu ne lis pas correctement la situation. Si tu es intuitif, rapidement, tu vas trouver une solution et tu vas l'apporter. Tu vas dire, voilà, ben je sais ce qu'on va faire. Ok, c'est vrai, on nous a fait ça, il y a tel problème. Très bien, très très bien, ok. Et finalement, tu vas trouver une solution. Des fois, des gens te font des sales coups. Ça me rappelle juste une petite anecdote. Un jour, nous avions une histoire de moquette qu'on voulait acheter à l'époque quand on louait une salle. On voulait mettre de la moquette sur l'estrade comme ici, puis on voulait mettre à droite, à gauche, parce qu'on voulait que la salle soit très propre. Et j'avais demandé à quelqu'un que je connaissais, un chrétien, plus ou moins engagé avec le Seigneur, il faut le dire, et son frère était dans le business, il avait un grand entrepôt, et il avait des rouleaux de moquette à vendre. Et puis, celui à qui j'avais pris des contacts, il m'a dit « Oui, il n'y a pas de problème, t'en fais pas, je vais m'arranger, je vais trouver le meilleur prix. » Il me dit « Tu veux ça pour combien ?» Je lui avais donné un prix tout à fait honorable. Et il me dit « Il n'y a pas de souci, etc. etc. » Et puis, tout devait être fait. Son frère était soi-disant d'accord. Et le jour où on commence à vouloir prendre la moquette, comme par hasard, le gars, il triple le prix. Comme par hasard. Alors, il y avait des gens qui étaient fâchés dans le staff. Ils disaient, oui, pourquoi ils nous ont fait ça, etc., etc. J'ai dit, ok, c'est pas grave, on aura meilleur. Moins de 6 mois plus tard, on avait meilleur. On avait de la moquette qu'on avait nous-mêmes importée parce qu'il y avait quelqu'un qui allait à Dubaï nous acheter ça, etc., etc., qui nous a fait, je sais plus, tout un tas de facilités pour qu'on paye le moins cher possible, etc., etc. Vous voyez, il y a des réponses. Si tu commences à t'aigrir au moindre problème que tu rencontres, tu vas avoir du ressentiment envers chacun. Quand on te fait un sale coup, réponds. Ne réagis pas. C'est pas facile. Je vous dis, c'est pas facile au début. Mais ça, c'est une clé dans le leadership. Si vous voulez vous protéger correctement, il va falloir que vous ayez du flair. En disant, ok, on veut me faire un sale coup ici, je vais pas avoir des ressentiments. Là, il m'a fait un sale coup. Là, vous voyez ? Non. Tu dis, ok, tu fais ça. Le Seigneur a meilleur. J'aurai la réponse et je sais que je vais amener la réponse. Et tu es là, tu dis, Seigneur, merci. Je vais pas aller m'énerver pour ces histoires. Je sais que tu as meilleur pour nous. Je sais que tu as plus grand. Je sais que tu as ceci. Je sais que tu as cela. Et c'est ce qui se passe. J'ai eu des banquiers comme ça, trois banquiers qui m'ont fait des sales coups. Avant qu'on achète, la première banque où j'étais, ça faisait 7 ans qu'on était sur le bâtiment qu'on voulait acheter. Et à l'époque, je voulais me mettre d'accord avec le propriétaire et j'aurais fait une grave erreur. Dieu soit béni, il m'en a vraiment protégé. De le payer en plusieurs fois. Mais ce type-là, c'est l'ex-propriétaire du bâtiment qu'on a acheté, c'était un gars qui n'était pas très clair, il faut le dire, un inconverti qui roulait souvent les gens. Et on m'avait prévenu. Donc j'étais quand même prudent, mais je me suis dit, je voulais absolument qu'on achète le bâtiment. Et je me suis dit, on va le payer en plusieurs fois. Et il était d'accord sur le principe. Ah, si j'avais fait ça, je serais dans des ennuis aujourd'hui terribles. Mais Dieu soit béni, il m'en a protégé. Mais la première fois où j'étais voir notre banque, on avait un peu d'argent de côté. Bon, pas énormément. Et le directeur de la banque, je le rencontre avec ma vice-représentante légale, qu'il connaissait. Je lui dis, voilà, nous on voudrait un crédit, on voudrait acheter tel truc, on voudrait acheter un bâtiment, etc., etc. Elle me dit, ah oui, le bâtiment là-bas, oui, tout à fait, là, ok. Et puis il me répond en face, il me dit, mais monsieur le pasteur, comme ça, monsieur le pasteur, nous ne finançons ni les partis politiques, ni les églises. Alors j'avoue que ça m'avait un peu choqué au départ. Je me suis dit, quoi ? Je dis, écoutez, monsieur, il n'y a pas de souci, mais au moins prévenez-nous quand nous ouvrons nos comptes en banque. Si c'est juste pour qu'on dépose de l'argent chez vous et que vous n'êtes pas capable de faire un service qu'une banque doit faire, c'est-à-dire, entre autres, d'aider son client et de financer son client, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Tôt ou tard, nous aurons notre réponse. Je vais dans une deuxième banque quelques temps plus tard, on me fait des soi-disant promesses. Mais je me suis aperçu que cette banque, plus tard, était tenue par des actionnaires qui finalement profitaient de l'argent des gens. C'était une famille qui avait mis la main mise sur la banque, une banque privée. Et en fait, le directeur général n'était qu'une marionnette. Je ne le savais pas quand je suis rentré dans la banque. Et on nous a fait tourner en rond pendant 3 mois, pendant 6 mois. Et j'ai dit à ma trésorière, il faut qu'on dégage de là, ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. On est sortis, ils ont dit, mais pourquoi vous partez, blablabla. J'ai dit, écoutez, on vous demande un crédit, toujours pour le même bâtiment. Et rien ne se passe. Je vais dans une autre banque, que je nommerai pas, mais c'est une banque régionale, qui détient d'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique de l'Est, une banque francophone. Et là, pareil, on commence à me dire, oui, bon, je vous promets rien, le directeur général nous dit, on vous connaît pas, alors qu'on était connu par tout le monde, sauf lui, c'était un expatrié d'Afrique de l'Ouest, qui était là, etc., etc. Et j'étais là et je me disais, non, le Seigneur a ça, je savais que c'était pour nous. Je dis, le meilleur, là, le meilleur est à venir. Et Dieu, surnaturellement, au moment où on était prêt, nous a amené un des directeurs d'une banque, de la plus grosse banque du Burundi, qui s'est converti. Et ils ont monté un dossier tout à fait clean. On n'a pas du tout marché par relation de préférence. Je ne marche jamais comme ça, personnellement. Mais Dieu nous a ouvert des portes, toutes simples. Vous voyez, je savais qu'il y avait une réponse au travers de la banque, mais il a fallu trouver le bon créneau. Et avoir l'intuition pour être sûr. Et en fait, c'est un de mes étudiants qui n'est pas de mon église, qui est venu me voir un jour et m'a dit, mais pasteur, pourquoi vous n'avez pas un compte chez nous? Pourquoi votre église n'a pas de compte chez nous? Je leur dis, ah, vous les banquiers, vous voulez tous notre argent, mais quand on a un projet, vous ne voulez pas nous financer. Et il m'a dit, si, on finance. Je lui ai dit, oui, d'accord, mais quelles sont vos conditions? Et c'est là où on a commencé. Et je savais, on a discuté très brièvement avec cet étudiant, mais quand je lui ai serré la main, je savais que j'avais ma réponse. Et on a trouvé la réponse. Quelques mois plus tard, on était financés, on faisait notre achat, et nous avons été la seule église indépendante au Burundi à trouver un financement sur notre église, sur la moitié. Vous voyez, il y a des choses comme ça que vous ressentez, mais vous devez aller en parler à l'église. Vous voyez, un jour, il y avait du ciment partout, tout était sale de partout, vraiment. C'était un chantier, il n'y a que le gros œuvre. Vous voyez, comme certains bâtiments que là, il y a à Kinshasa, qui traînent depuis des années. Ça fait 10 ans que le propriétaire avait construit le gros œuvre, mais tout était sale, dégoûtant. Tout était sale, mais sale. Et j'ai dit aux chrétiens, vous savez, dans 3 semaines, on sera là-bas pour célébrer les cultes. Et je leur avais montré les images d'un chantier total. Alors ils m'ont regardé et j'ai senti qu'ils me disaient « Oui, pasteur, oui, t'as raison. » Et 4 semaines plus tard, on était là-bas. Et là, quand on était là-bas, les gens étaient... Ils étaient comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on avait réussi à faire quelque chose. Et vous savez, il y a des situations que vous lisez. Il faut que vous appreniez à lire les situations. Vous apportez des solutions divines à des problèmes humains. Vous relevez des défis qui sont là. Parce que vous connaissez, vous ressentez les situations. Vous savez que Ce bâtiment, par exemple, je l'avais repéré 7 ans avant. 7 ans. J'ai travaillé 7 ans ma foi pour avoir ce bâtiment. Je savais qu'un jour on l'achèterait. Et plusieurs fois on nous a dit, il est vendu. Je dis, ah bon ? Ah bon ? Et une fois, ma foi a défailli. On avait commencé à prendre des options sur un autre terrain parce que je voyais que la situation ne se débloquait pas. Et un jour, le Seigneur m'a clairement remontré. Il m'a dit, non, c'est ça que j'ai pour vous. Et on est rentré dedans, on l'a acheté. Mais vous voyez, il y a des choses que vous devez ressentir en tant que leader. Des choses importantes qui vont vous aider à avancer dans le leadership. L'intuition, c'est quelque chose qui est important. Numéro 2. Grand 2. Les leaders intuitifs sont ceux qui savent lire de manière divine dans les situations et dans les personnes. Les leaders intuitifs sont ceux qui savent lire de manière divine dans les situations et dans les personnes. Alors, ceux qui ont de l'intuition savent. Les leaders qui ont de l'intuition savent. Numéro 1, donc on va voir 5 points que les leaders intuitifs savent faire. D'abord, ils savent lire les situations. On en a parlé, répondre. C'est ce que j'ai trop à faire, donc lire les situations. Donc les leaders intuitifs savent faire. Il y a 5 points qu'on va étudier ici. Ils savent lire les situations. Donc, ils ne voient pas le problème, ils voient la solution. Et Jéthro, c'est ce qu'il a fait. Jéthro a vu Moïse qui était en train de s'épuiser et il a tout de suite apporté la solution. Numéro 2, les leaders donc qui ont de l'intuition, ils savent numéro 2, lire la façon de ne pas s'écarter de la vision originelle. Lire la façon de ne pas s'écarter de la vision originelle. Et ça, c'est important parce qu'un leader intuitif, il évite les catastrophes. Ça lui permet d'éviter les catastrophes. Et là, vous savez, si Moïse était mort d'épuisement, vous allez me dire, Dieu n'aurait pas permis ça. Méfiez-vous. Vous savez, la gestion de notre corps, nous en sommes responsables. Nous sommes les gestionnaires de notre vie et de notre corps. Si on fait n'importe quoi, on peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes. Et là, si Moïse était mort, c'était une bombe à retardement. En plein désert comme ça aurait été une catastrophe. La destinée du peuple d'Israël aurait été complètement empiétée. Donc le leader, il va savoir toujours faire attention. Le leader intuitif va toujours faire attention, prévenir plutôt que guérir. Et il va toujours faire attention que la vision, on ne s'écarte pas de la vision originelle. Numéro 3, lire sur les ressources disponibles. Numéro 3, lire sur toutes les ressources disponibles. En fait, un bon leader intuitif, sur les ressources disponibles. Un bon leader intuitif, il prend ce qu'il a à portée de main et il l'exploite pour apporter la solution. C'est ça qu'un bon leader intuitif sait faire. Il prend les ressources qu'il a sous la main et il en fait une solution. Il ne se dit pas « Ah, si j'avais, alors j'aurais pu. » Non, il prend les ressources qu'il a devant lui, devant les yeux, et il sait comment les exploiter pour trouver une solution et pour apporter la solution. C'est ce que Jéthro a fait. Ensuite, il sait lire les personnes. Il sait lire les personnes. Il sait lire les personnes, c'est-à-dire qu'il comprend les personnes qu'il a à disposition et il les met pour qu'elles soient productives. Donc il les met dans la productivité. Il voit là, telle personne, tel don, je vais la mettre là. Et dernier point, le leader intuitif sait lire sur lui-même. Il sait lire sur lui-même. Un leader intuitif connaît ses points forts et connaît ses points faibles. Un leader intuitif connaît ses points forts et connaît ses points faibles. Ça aussi, c'est important. Jéthro n'a pas cherché à se faire embaucher. Il aurait pu prendre la place de superintendant, mais il ne l'a pas fait. Donc en fait, un leader intuitif sait lire sur lui-même ses points forts et ses points faibles. C'est très important. Vous savez, tous les leaders ont des points forts, tous les leaders ont des points faibles. Et quand tu ne les connais pas bien, tu risques de dévier facilement. Il y a des carences dans ton leadership. Dans tous les leaderships, il y a des carences. Il y a des points qu'on ne sait pas bien maîtriser, il y en a d'autres. C'est vraiment, on est expert dans le domaine. Mais un bon leader intuitif, il sait exactement quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Et ça, c'est super important. Alors, les gens comme Néhémie, des gens comme Joseph aussi étaient des leaders intuitifs. Il n'y a pas que Jéthro. Et ni Joseph, ni Néhémie n'auraient pu réussir s'ils n'avaient pas eu du flair. Vous vous rappelez, dans la loi de la navigation, Néhémie a vu exactement ce qu'il fallait faire. Il a amené les solutions au problème d'Israël, au problème des murailles. Il a su organiser les gens, etc., etc.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.